Invité vom Dach.
An die Invité vom Dach aus Constance Heutebruck. Sie ist Chercheuse um l'Isère, um Observatoire de l'Habitat. Bonjour, Madame Heutebruck. Vous êtes chercheuse donc à l'Observatoire de l'Habitat. L'Observatoire a publié une note hier concernant le marché de l'immobilier luxembourgeois et le constat principal, dont la conclusion en tout cas, c'est que la situation sur le marché de l'immobilier luxembourgeois pourrait susciter des tensions au niveau de la grande région. Et de quel type de tension est-ce que vous parlez ?
Mais on parle notamment de différences en termes de niveau de vie, de taux d'effort. Maintenant, les données qu'on a sur cette étude-ci sont des données de l'enquête européenne sur les conditions de vie. Et donc, ce sont des données par pays. Donc, on a, dans le cadre de cette étude-ci, on n'a pas vraiment pu rentrer dans des... divergences très fines au niveau des zones frontalières. Par contre, on est en train de préparer un projet d'observatoire transfrontalier du logement avec des partenaires dans les pays voisins. Et dans ce cadre-là, on sortira un cahier de la Grande Région au mois de décembre où on aura là plus d'informations avec des articles écrits par ces futurs partenaires. On aura des informations notamment sur les prix dans les zones frontalières. On pourra en dire plus avec des informations précises à ce moment-là.
Mais le constat justement que la situation au Luxembourg pourrait susciter des tensions au niveau de la grande région. D'où est-ce que ça vient, ce constat ?
On a une pression sur le marché du logement qui est particulièrement importante. Et ce qu'on a mis notamment en évidence, une grosse différence entre le Luxembourg et par exemple la Belgique et l'Allemagne, c'est que entre 2012 et 2022, alors qu'il y a une baisse des taux d'effort qui est observée en Belgique et en Allemagne, au Luxembourg, malgré une augmentation substantielle des niveaux de vie, en particulier pour les locataires, mais les taux d'effort ont aussi augmenté à la fois pour les propriétaires avec emprunt et pour l'ensemble des locataires, ce qui reflète des inégalités assez importantes, notamment par rapport à des propriétaires sans emprunt qui, de manière assez logique, n'ont plus d'emprunt hypothécaire à payer et donc ils se retrouvent avec des taux d'effort très faibles de 8% en 2022. Et donc c'est un constat qu'on a voulu mettre en évidence dans cette note, parce que alors que si même les taux d'effort sont très importants à la fois pour les propriétaires avec emprunt et pour les locataires, les propriétaires avec emprunt peuvent espérer un jour se retrouver dans la situation de ceux qui n'en ont plus, et donc avec des taux d'effort largement soulagés, alors que parmi les locataires, il y en a qui ne pourront jamais accéder à ce confort et qui vont peut-être arriver à la fin de leur vie avec toujours des taux d'effort de plus de 30%.
Mais comment expliquer ces différences entre les différents pays de la grande région ? Parce que si j'ai bien lu votre note où vous parlez aussi vous faites un peu l'historique des politiques du logement dans la grande région. Il y a aussi la Belgique, par exemple, qui a beaucoup favorisé l'accès à la propriété, tout comme le Luxembourg. Alors, d'où vient cette différence ?
Alors, la Belgique, si même les taux d'effort ont diminué en 2022 et 2012, pour les locataires, il reste très élevé. On est à 37%, ce qui est supérieur au Luxembourg. Et ça s'explique notamment parce que les niveaux de vie sont bien inférieurs en Belgique. Pour l'Allemagne, par contre, là, on a vraiment une diminution substantielle et un taux d'effort moins élevé pour les locataires. Et ça s'explique notamment parce que l'Allemagne a tout un système de régulation des loyers qui est implémenté au niveau de certains lenders, le Mietspiegel. Et cette régulation assez relativement stricte, on va dire, on imagine qu'elle a dû contribuer pas mal à soulager la situation des locataires. Et on a de manière générale une distribution des statuts d'occupation qui est assez différente, avec plus de 50% de locataires en Allemagne, ce qui est une singularité par rapport aux trois autres pays.
Mais est-ce qu'une réglementation plus stricte serait alors aussi souhaitable pour le marché luxembourgeois, à votre avis ?
Alors, il y a aujourd'hui des discussions sur la révision du plafonnement des loyers, mais c'est toujours en cours de discussion. Donc ça, on ne peut pas en dire beaucoup plus à ce stade, parce que voilà, c'est en cours.
Et voilà, donc vous avez dit que le taux d'effort est particulièrement élevé au Luxembourg et ça concerne surtout les locataires et surtout les jeunes. Parce que vous avez aussi travaillé sur la situation des jeunes, sur le marché de l'immobilier luxembourgeois. Et un des résultats les plus remarquables que j'ai pu lire dans l'étude, c'est que 60% des jeunes ne sont pas satisfaits par leur situation de logement actuellement.
Ça concernait les locataires, oui. Donc, c'était, en fait, on est parti de ce constat d'insatisfaction par rapport au statut d'occupation chez les jeunes locataires, par rapport aux propriétaires qui, dans leur très très grande majorité, sont plutôt satisfaits d'être propriétaires, on peut l'imaginer. Et on s'est interrogé de là sur le manque de perspectives résidentielles. Par exemple, parmi les jeunes, donc on a étudié les 19-35 ans, parmi ce groupe, dans ceux qui ne peuvent pas déménager, la majorité, ce sont pour des questions financières. On s'est aussi attardé pas mal sur les inégalités d'accès à la propriété privée parmi les jeunes adultes. Et alors là, ce qui est quand même intéressant de constater, c'est qu'il y a un tiers des jeunes qui a bénéficié d'un soutien familial pour pouvoir acheter un bien. Et alors, le résultat qui m'a vraiment marqué dans ce volet-là de l'étude, c'est l'influence du background migratoire. C'est-à-dire que quand vous regardez les jeunes luxembourgeois dont au moins un parent est né au Luxembourg, donc parmi les 19-35 ans, toujours il y en a 42% qui sont propriétaires. Cette proportion, elle tombe à 7% si on regarde des personnes avec une nationalité en dehors de l'Union européenne et avec des parents nés à l'étranger.
Parce qu'ils n'ont pas l'héritage qui leur permet d'accéder à la propriété.
Mais on imagine que, on montre aussi dans ce volet-là de l'étude que parmi les 19-35 ans, il y a presque 6% des répondants qui ont hérité de leur logement. Et au-delà de 35 ans, cette proportion tombe à 3%. Donc il y a tout un tas de mécanismes sur lesquels on commence, via ce genre d'études, à avoir des informations qui jouent un rôle et qui creusent des inégalités dès l'entrée sur le marché du logement.
Quelles solutions est-ce que vous proposez éventuellement pour résoudre ces inégalités, pour terminer ces inégalités?
On ne propose pas en soi de solution, ça c'est une décision qui appartient à Monsieur Maïch.
Mais vous avez peut-être des suggestions à faire.
Disons que pour la note sur les jeunes, on a un peu regardé de nouveau ce qui se faisait dans les pays voisins. Et il y a plus de mesures qui sont ciblées vers cette tranche d'âge. Après, on ne dit pas que c'est mieux ou moins bien, mais c'était quelque chose qu'on a voulu analyser pour alimenter le débat. Et alors, dans le cadre de la note sur les jeunes, on a été jusqu'à regarder aussi ce qui se passe aux Pays-Bas, où vous avez aussi une production de logements locatifs sociaux qui cible des tranches d'âge, donc de personnes qui rentrent sur le marché du logement des 18-30 ans ou je sais pas si c'est jusqu'à 30-35 ans, mais bref, vous avez vraiment une production publique de logements abordables pour ces groupes cibles et qui peut-être peuvent contribuer à améliorer la situation. Maintenant, on n'a pas non plus spécialement d'analyse ex post de ces mesures-là. Donc c'est toujours difficile d'évaluer ce qui se fait dans les autres pays et de voir aussi dans quelle mesure c'est applicable à un pays comme le Luxembourg, parce que je pense qu'un des intérêts aussi de regarder sur le long terme, de comparer sur le long terme l'histoire de la politique du logement dans ces pays, c'est de montrer qu'il y a tout un tas de dépendances à ce qui s'est fait même parfois il y a un siècle, qui font que ce n'est pas non plus si facile de simplement prendre une mesure qui se fait ailleurs et l'appliquer
dans notre pays. Ouais. Ouais. Faudrait-il alors développer une politique commune du logement ou du moins des concertations au niveau de la grande région, justement pour harmoniser un petit peu ces politiques?
Alors ça, ce sera un des grands objectifs de cet observatoire transfrontalier, dont on espère vraiment qu'il pourra aboutir, ce sera d'améliorer la gouvernance transfrontalière. Pour commencer, d'harmoniser tout un tas de données, notamment en termes de prix, et puis améliorer, mettre en place, ou enfin soutenir la mise en place de structures de gouvernance transfrontalière.
Et cet observatoire transfrontalier, en quoi, il est à quel stade actuellement ?
Donc là, on est en train de préparer un projet pour répondre à un appel Interreg. On est en train de discuter avec les partenaires. C'est encore assez, on est encore vraiment en amont du processus, mais voilà, je pense que déjà la parution en décembre du cahier de la Grande Région va permettre de diffuser, rendre public certains constats, et puis progressivement on va mettre les pièces du puzzle ensemble.
Mais vous êtes déjà en contact avec vos homologues, si ça existe, hein, dans les régions limitrophes?
Oui, on est en contact notamment avec plusieurs partenaires académiques, plusieurs partenaires institutionnels aussi. Voilà.
D'accord, merci beaucoup, Madame Constance Hottebrück, pour cet entretien.
Merci à vous pour l'invitation.